Voilà.
Et j'ai plein de problèmes en ce moment avec mon téléphone.
Je ne sais pas comment on l'arrête. Hein. D'abord, c'est l'envers.
Et tu sais, en ce moment, je deviens folle. Avec des copines, on est simple.
Bon. Bienvenue à tous.
Gérard m'a monté le son.
Et.
Excusez-moi, ça ne va pas durer.
Ah, c'est toi, d'accord. Oui, je pensais que c'était
moi. C'est
mon...
pas moi, c'est mon téléphone.
Bon. Et. Je suis ravie de vous voir ici. Et je vais vous présenter Séverin très brièvement avant de lui passer la parole. Parce que j'ai déjà diffusé, vous avez lu, j'imagine. J'ai mis sur le site aussi des petites, de petits textes. Mais je vais quand même vous lire, pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui est Séverin, qu'on est ravis d'avoir parmi nous. Donc, il nous a été recommandé par Laurence Tain, qui l'a rencontré au Kazakhstan, je crois. Donc, il vient de loin. Et... Donc, il s'est intéressé aux relations entre juifs et polonais lors de son parcours universitaire à l'université Jagiellon, comment on se prononce
Jagiellon,
de Cracovie, où il a passé un séjour... où il a passé plusieurs années, hein, 2005-2009, de façon peut-être un peu alternée, et parce qu'il m'a dit que... Il aimait beaucoup la Pologne, donc maintenant il parle bien polonais. Donc ceux qui ont envie de parler polonais avec lui après pourront le faire. Et donc il a préparé un mémoire sur l'antisémitisme dont il va nous parler. Alors il m'a demandé d'être indulgent parce que vous voyez les dates 2005-2009. Après, il a été rattaché à l'ambassade française en Kazakhstan, en Ouzbékistan. Il a fait plein d'autres choses. Donc, on l'a obligé à revenir sur ses amours de jeunesse, hein, quoiqu'il est toujours très jeune. Et donc, il a repotassé ce qu'il avait élaboré pour son mémoire. Et c'est de ça qu'il va nous parler. Et donc, je lui ai demandé de faire ça en 50 minutes à peu près. Il me dit qu'il est très bavard, donc peut-être qu'il va dépasser, mais après on pourra lui poser des questions.
Bien, merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis ravi d'être ici, merci de m'avoir invité. En fait, je ne suis pas arrivé du Kazakhstan, évidemment. Je suis actuellement à Vienne. En Isère, donc j'habite pas très très loin, mais c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé au cours de mes dernières années. J'ai vécu en Pologne pendant 5 années, 2005 à 2009, et c'est un pays où je retourne régulièrement. Donc je suis l'actualité polonaise, ma compagne est polonaise, donc sans prétendre avoir une légitimité à parler de ce sujet, c'est quand même un sujet que je maîtrise relativement bien. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs à l'université Jagiellon qui étaient des experts sur la question. Ça me fait plaisir d'être à Grenoble parce que figurez-vous que la dernière fois que j'ai eu à intervenir sur ce thème, c'était avec des gens qui avaient organisé un séminaire et qui venaient d'Izieux. En fait, c'est plus exactement la maison d'Izieux qui avait organisé un séminaire, mais cette fois-ci en Pologne, où je parlais à des profs d'université, des lycéens, etc. Donc ça fait longtemps, 2009, donc j'espère que vous serez indulgents avec moi. J'ai dû repotasser ce sujet-là, parce que entre-temps, je suis allé travailler en Ouzbékistan, au Kazakhstan, des territoires encore moins connus que la Pologne. Autant vous dire que j'ai emmagasiné un certain nombre de connaissances, et malheureusement, la mémoire est ainsi faite, elle recouvre. Et donc, du coup, il y a un certain nombre de choses que j'avais un peu oubliées. Juste en préambule, je voudrais, parce qu'on m'a beaucoup posé la question, vous expliquer pourquoi je suis venu à travailler sur ce sujet. D'abord, il y a une première chose, c'est que quand je suis allé étudier en Pologne, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que la Pologne, qui est pratiquement un pays voisin, n'est pas très loin, qui est un pays qui fait 38 millions d'habitants, et finalement un pays qui n'est pas très connu en France. Et ça m'a toujours surpris, c'est que si on compare évidemment les pays voisins, l'Italie, la Belgique ou l'Espagne, etc. C'est des pays qu'on connaît assez bien. Mais on a des pays lointains qu'on connaît beaucoup mieux que la Pologne, alors que finalement, c'est un pays dont on a accueilli une forte minorité. Moi, je viens du nord de la France, à Lens, il y en a énormément. En Lorraine, il y en a énormément. À Saint-Étienne, il y a beaucoup de Polonais exactement. Mais pourtant, on connaît mal ce pays. Ou alors, quand on en parle, c'est soit à travers beaucoup de préjugés, évidemment, et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce travail, les camps de concentration. Vous savez que le premier site culturel et touristique de Pologne, c'est Auschwitz-Birkenau. Et moi, Auschwitz-Birkenau, parce que j'ai travaillé à l'Institut français au Consulat général de France, j'y suis allé 5-10 fois. Donc je connais ça assez bien. Et donc j'ai voulu m'intéresser à ce sujet pour ça, parce que quand on s'intéresse à l'histoire de la Pologne, on s'intéresse à une histoire qui est particulièrement compliquée. L'histoire de France est compliquée, mais parler d'une histoire d'un pays qui a disparu de la carte, c'est encore plus compliqué. Ensuite, quand je suis arrivé en 2005, je suis arrivé à un moment où il y avait une remontée du nationalisme. C'était à l'époque où les frères Kaczynski, mais les deux frères à ce moment-là, étaient l'un président, l'autre premier ministre. C'était en 2005. Il y en a un qui a beaucoup de pouvoir aujourd'hui. Mais à l'époque, et ça c'était une particularité, c'est que dans le gouvernement, il y avait des alliances avec des partis xénophobes et antisémites, qui ne sont plus là aujourd'hui. La Ligue des familles polonaises, le parti politique de l'autodéfense. Et quand vous voyez les propos qu'avaient ces partis en 2005, vous êtes forcé de vous poser des questions. Voilà, donc ça c'est ce qui m'a amené à réfléchir à ça. Depuis 25 ans, un peu plus maintenant, la Pologne s'est réouverte vers la démocratie. C'est important de comprendre ça parce qu'il y a un certain nombre de sujets, de questions qu'on peut se poser aujourd'hui, qu'on pouvait difficilement se poser dans les années 80. En France, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, quand on parle du régime de Vichy, on a eu des auteurs. Par exemple, un des livres que j'avais lu quand je faisais mes études de droit, c'était « La France de Vichy » de Robert Paxton, un Américain. Ça, c'est paru dans les années 80. En Pologne...
73.
Encore mieux. En Pologne, dans les années 70-80, c'était difficile de parler du passé juif, de parler de ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc finalement, on a un phénomène très tardif de relecture de l'histoire, de recherche, etc. Et d'ailleurs, ça pose un certain nombre de problèmes, puisque vous avez des populations qui ont vécu pendant 40-50 ans dans le déni, donc qui n'acceptent pas aujourd'hui qu'on revienne sur des choses qui étaient assimilées dans les années 50, 60, etc. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de recherches qui sont faites, on a un certain nombre d'auteurs qui publient des choses, des Polonais, des juifs polonais, des français, etc. etc. Je vous invite d'ailleurs, si vous êtes intéressé par le sujet, il y a un ouvrage exceptionnel qui a été écrit en 2008, qui est une collection avec énormément d'auteurs, qui s'appelle « Juifs et polonais », et ça a été publié en 2008 par Jean-Charles Chourek et Annette Vivurka. C'est un bouquin exceptionnel. Et il m'a beaucoup servi pour ce travail. Alors, je vais vous présenter un petit peu le plan de mon travail. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on lit l'histoire de la Pologne et l'histoire contemporaine, on parle forcément des relations entre juifs et polonais. On est obligé de passer par là. Moi, ce qui m'a amené à faire ce travail, c'est que je trouvais qu'on parlait beaucoup des relations entre juifs et polonais et on parlait de l'antisémitisme en disant « il y en a ou il n'y en a pas ». Mais rarement, j'ai pu lire des choses où on analyse le phénomène. C'est-à-dire, l'antisémitisme, très bien, mais est-ce qu'il était violent? Est-ce qu'il était politique? Est-ce que c'était un antisémitisme d'État? À quel moment? Quand est-ce que ça s'est passé? Et c'est ça qui m'a intéressé. C'est-à-dire, pas simplement de dire, là, ça a été entre les Polonais et les Juifs, là, ça n'a pas été, mais de dire comment s'est caractérisé l'antisémitisme. Parce que l'antisémitisme, c'est pas un phénomène figé. C'est quelque chose qui évolue. En France, on le voit aussi d'ailleurs. L'antisémitisme qui a eu lieu au 19e siècle et l'antisémitisme qui a lieu aujourd'hui, il n'a pas la même nature et il ne se manifeste pas forcément de la même manière. En Pologne, c'est pareil. Donc, c'est ce qui m'a intéressé. Alors, au début, je vais parler de la persistance d'un antisémitisme virulent en Pologne au lendemain de l'Holocauste en 1945-46. Pourquoi ? Parce que ça, c'est une vraie spécificité polonaise. C'est-à-dire que après la Deuxième Guerre mondiale, on se dit, notamment dans un pays où il y a l'essentiel des camps de concentration, que l'antisémitisme virulent, violent, qui se manifeste par des pogroms, on peut penser, parfois naïvement, en tout cas moi c'est ce que j'avais pensé, qu'il va s'arrêter, pas du tout. Et ça, c'est un phénomène rare, il n'y a pas beaucoup de pays en Europe centrale où ça s'est passé. Et pour examiner l'antisémitisme auquel on fait face en 1945-46, je vous propose de revenir un peu en arrière, à la genèse de l'antisémitisme violent en Pologne, de voir comment il a évolué à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. On passera un moment aussi à l'entre-deux-guerres, qui a été un moment important. Je parle de mutation de l'antisémitisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, je reviens à 1945-46. Donc, première partie, la persistance d'un antisémitisme virulent en Pologne au lendemain de l'Holocauste. Alors, pourquoi je le qualifie de virulent et comment il s'est manifesté ? On a, en 1945-46, toute une série de pogroms. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. À Cracovie, à Kielce, à Białystok, dans de nombreuses villes. Il y en a qui sont extrêmement documentés, comme celui de Kielce ou de Cracovie. Le pogrom de Kielce, c'est un pogrom qui fait plus de 40 morts, entre 50 et 80 blessés. Je vous parle rapidement des faits. C'est documenté par un excellent ouvrage qui a fait polémique en Pologne, qui a été écrit par un juif américain qui s'appelle Jan Tomasz Gross. On est en 46, l'été 46, et il y a une rumeur propagée de l'enlèvement d'un enfant. Et évidemment, on revient au meurtre rituel, enlèvement par les juifs, etc. Parce qu'il y avait un certain nombre de rumeurs. On utilisait le sang des enfants, par exemple. Les rumeurs qui voyageaient encore malheureusement dans les chaumières en Pologne, dans certaines chaumières en Pologne à cette époque. Ce qui se passe, c'est que il y a un pogrom qui a lieu. Moi, je suis allé sur les lieux du pogrom. Mais ce pogrom, il est perpétré par des Polonais. À ce moment-là, il n'y a plus d'Allemands, il n'y a plus de nazis. On n'est pas sous le joug de l'armée allemande qui vous commande un pogrom. Ils ne sont plus là. Par contre, il y a la police qui est complice, la milice. Et à l'époque, il ne faut pas l'oublier, on est en 46. En 46, la Pologne, elle est occupée d'une certaine manière. Elle est occupée par un régime communiste qui s'est imposé par la force. J'y reviendrai. Mais il n'y a pas que des pogroms qui se passent en Pologne. Il y a aussi d'autres choses. On a des violences individuelles. Jan Tomasz Gross en parle aussi beaucoup. Par exemple, une pratique qui se fait, c'est-à-dire on propage des rumeurs dans des trains et on jette des juifs avec un train en marche. Quelque chose qui est arrivé à plusieurs reprises. Des symboles culturels et religieux qui sont dénaturés. On a ça aussi. Mais aussi parce que on a, en 45-46, une expropriation et un pillage qui est fait. Je reviendrai là-dessus, mais la Pologne de 45-46, c'est un pays qui est complètement dénaturé, qui vient de subir la Deuxième Guerre mondiale de plein fouet, beaucoup plus que chez nous, en France. Et donc, il y a aussi la volonté de dire, on a occupé des maisons, qui étaient des maisons occupées par des populations juives, elles reviennent, mais non. C'est notre maison, donc il y a une appropriation des biens qui étaient des biens juifs, du pillage, parce qu'on est dans un moment où il n'y a rien à manger, parce qu'on est dans un moment où il y a de la famine. Bref, il y a un certain nombre de choses qui se passent, et ça dure à peu près 2 ans comme ça. Et ça s'arrête assez nettement en 46. Je parle d'antisémitisme violent et virulent. Je ne dis pas que l'antisémitisme s'arrête, je dis que les pogroms s'arrêtent à peu près à ce moment-là. Selon les chiffres qui sont donnés par différents historiens, on a entre 600 et 1500 personnes qui sont victimes de ces pogroms. Là, je parle de morts. Voilà. Donc, ce qui est clair, c'est que l'antisémitisme en Pologne, il ne s'est pas arrêté avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il ne s'est pas arrêté après la souffrance de 10% de la population qui était la population juive. Je renie pas non plus la souffrance de la population polonaise. Mais la question qu'on se pose, et ce qu'on se dit même, c'est que l'antisémitisme était enraciné et qu'il a perduré en 45-46. Et donc, moi, ce que je me pose comme question, c'est... Alors d'abord, je vais vous donner une citation pour citer un intellectuel polonais qui disait ça donc, juste après les pogroms de Kielce. J'aimerais pouvoir dire, donc il s'appelle Jerzy Andrzejewski, que oui, l'antisémitisme en Pologne est en train de disparaître. Mais après plusieurs années de réflexion sur le sujet, témoignant de tout ce qui s'est passé en Pologne avant et pendant la guerre, et de tout ce qui se passe en ce moment, ayant entendu des gens de différents milieux et d'un niveau d'intelligence variable, je ne suis pas capable d'en conclure, je ne peux pas en conclure à autre chose que la nation polonaise, à tous les niveaux, et quels que soient les niveaux intellectuels, du plus élevé jusqu'au plus bas, était et reste antisémite après la guerre. Ce n'est pas un juif polonais qui parle, hein. C'est un intellectuel polonais catholique qui parle. Donc moi, la question que je me suis posée, c'est... Quelle est la nature de cet antisémitisme? D'où provient cette haine du juif? Et ce que je vous propose, c'est d'en parler en revenant un petit peu en arrière. La genèse d'un antisémitisme violent. Je reviens à la deuxième moitié du 19e siècle. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant la deuxième moitié du 19e siècle, la Pologne est un pays particulièrement tolérant. Ça surprend quand on en parle aujourd'hui, parce qu'encore une fois, il y a énormément de clichés qui sont véhiculés, mais la Pologne, pendant 10 siècles, elle accueille une population juive qui ne fait qu'augmenter. Je redonne les chiffres de 1939. En 1939, la population juive, c'est 10% de la population totale polonaise. C'est environ 3,5 millions de personnes. Et vous avez, à aucun moment de l'histoire polonaise, d'antisémitisme d'État. Vous avez des rois polonais qui très très tôt ont accueilli des populations juives. Ça commence très très tôt. Ça commence notamment, enfin il y a un élément qui est marquant, c'est avec Casimir, le roi Casimir, qui... lui-même à Cracovie, si vous y êtes déjà allé, a baptisé, il y a un nom qui porte son quartier, qui s'appelle le quartier de Casimir, où les populations juives pouvaient être installées. Et ça se fait dans toute la Pologne. On n'a pas en Pologne des phénomènes comme on a eu par exemple en Espagne avec l'Inquisition en 1492, ou des expulsions organisées comme en 1394. On a même en Pologne un texte qui s'appelle un décret, je crois, de Kalisz, qui très très tôt, je crois que c'est au XIIIe siècle, donne le droit aux Polonais de s'installer, de pratiquer leur religion librement.
Aux Juifs.
Merci de me reprendre. Aux Juifs de s'installer, de travailler, de pratiquer leur religion. Ça a lieu en Pologne jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle. Par ailleurs, on n'a pas non plus en Pologne de système d'assimilation. C'est-à-dire que même s'il y a une tolérance très très grande vis-à-vis de la population juive, les Polonais et les Juifs vivent relativement séparément. Au XIXe siècle, on a en Europe la montée de l'impérialisme, en France, en Allemagne, dans d'autres pays. Et cette montée de l'impérialisme, elle se traduit également par une montée de l'antisémitisme. On a un phénomène et une tendance qui est la même en Pologne. Rappelez-vous aussi d'une chose, c'est que fin du XIXe siècle, la Russie mise à part, la Pologne est le pays d'Europe qui concentre la plus forte population juive d'Europe. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on oublie assez régulièrement. Et moi, j'ai l'habitude de dire, si les Juifs se sont installés en Pologne, c'est quand même pour certaines raisons. Je vais citer quelqu'un français, Michel Viviorca, qui dit, et lui, il a écrit un ouvrage aussi très intéressant sur la question, « Jusqu'au XIXe siècle, la Pologne était un refuge, un de ces rares havres de paix où les Juifs, mieux traités qu'ailleurs, viennent s'installer en nombre dans un climat bien moins hostile que tous ceux qu'ils ont pu connaître en Europe occidentale. » Cependant, ce qu'il faut penser, c'est qu'au XIXe siècle, la Pologne, ce n'est pas un État. C'est un territoire partagé. Et c'est là que la chose se complexifie quand on essaye d'analyser l'antisémitisme. La Pologne, à partir de 1795, c'est un territoire sous le contrôle de trois empires. L'Empire prusse, l'Empire russe et l'Autriche-Hongrie. Donc quand on analyse l'antisémitisme, on ne peut pas l'analyser comme un antisémitisme de Pologne. On doit l'analyser comme un antisémitisme qui est forcément, comment dire, un antisémitisme qui suit la mouvance qui existe dans ces trois empires. Et les Polonais qui composent le territoire de la Pologne à cette époque évoluent aussi en fonction de ce qui se passe dans les empires. Évidemment, ça a rendu mon travail assez compliqué. Donc il n'y a pas d'uniformité de l'antisémitisme en Pologne au XIXe siècle. Alors je vous propose, assez rapidement, parce que je ne peux pas passer énormément de temps là-dessus, d'analyser sur les trois tronçons de la Pologne. Je vous ai remis une carte pour expliquer un petit peu la situation. Donc vous avez en rouge toute la partie polonaise qui est occupée par les Russes. Au sud, la partie occupée par l'Empire austro-hongrois, et à gauche, par la Prusse. Il y a eu une parenthèse française, mais qui a duré très peu de temps au milieu. Donc, pour revenir à ce que je disais, on doit donc parler des différents territoires. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour analyser ce qui se passe dans ces territoires, on peut prendre en compte trois paramètres qui influencent considérablement l'interaction des communautés juives avec les autres peuples des empires. Le premier, c'est le statut accordé aux Polonais par le pouvoir en place. Le deuxième, c'est le traitement des Juifs par les maîtres de chacun des trois empires. Et troisièmement, la santé économique des empires. Ces trois facteurs-là, ils ont été mis en place par un historien français qui s'appelle Daniel Beauvois, qui considère qu'il faut les prendre en compte pour comprendre l'évolution de l'antisémitisme dans ces trois empires. Pour aller vite, sur le territoire russe, c'est là où on a d'abord la plus forte concentration de juifs, largement. Même si ce qui est intéressant, c'est que même si c'est là où il y a la plus forte concentration de juifs, la population juive dans ces territoires est à peu près la même en termes de pourcentage. On est entre 5 et 8%. On a un antisémitisme qui est extrêmement virulent et qui débute notamment avec Alexandre III et qui se renforce dans sa violence sous le règne de Nicolas II. Là, on a un antisémitisme brutal, un antisémitisme d'État. On a des législations clairement anti-juives. On a des pogroms qui ont lieu dans la région de Varsovie à plusieurs reprises. On a des répressions des partis politiques. On a une paupérisation de la communauté juive. Je vous invite à aller lire des choses là-dessus. Mais ce qui est surtout intéressant dans la démarche qui est la mienne, c'est que c'est pratiquement le début de la manifestation d'un antisémitisme violent. Avant ça, sur le territoire polonais, on a, peut-être à l'exception de quelques-uns, mais c'est très très rare, des pogroms organisés. On n'a pas de tuerie collective. L'antisémitisme existe, mais ce n'est pas un antisémitisme qui se manifeste par une violence physique. Donc, on peut pratiquement dire que l'antisémitisme violent, il commence sur les territoires qui est à l'époque occupé par l'EDA. On a, en Galicie autrichienne, un antisémitisme qui est d'une nature un peu différente. C'est-à-dire que là, on a les maîtres de l'Empire qui ont accordé à toutes les minorités, à tous les peuples, une certaine égalité. Donc les Juifs se voient accorder des droits qu'ils n'avaient pas dans la Pologne avant, à la fin du XVIIIe siècle. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ça déplaît à des Polonais qui sont sur cette partie-là du territoire, parce que finalement, les Juifs qui vivaient séparément sont perçus comme un peuple égal, avec les mêmes droits. Et donc, on a une manifestation de l'antisémitisme, mais qui est beaucoup plus dans une tradition moderne, avec des pressions économiques, des boycotts, mais pas trop d'actions violentes. Ce qui est paradoxal aussi, c'est que l'antisémitisme, enfin, c'est pas paradoxal, l'antisémitisme qu'on a à l'époque dans cette partie-là de la Pologne, il suit l'antisémitisme qui monte aussi dans l'Empire austro-hongrois, où les maîtres de l'Empire sont de plus en plus impopulaires. On a aussi un antisémitisme politique qui se met en place en Autriche-Hongrie. Et donc, il y a cette mouvance qui se développe. Il y a Michel Viviorca qui explique aussi ce paradoxe. C'est qu'il explique que dans cette partie du territoire, les Juifs ont finalement une relation plutôt bonne avec le pouvoir. Ils sont très prisés par la cour et les Polonais s'en servent. C'est-à-dire que pour discuter avec la cour autrichienne, les Juifs sont utilisés ou sont perçus comme des diplomates qui peuvent avoir l'attention de la cour. Mais paradoxalement, en territoire polonais, et quand les Polonais vont considérer qu'ils ne devraient pas avoir les mêmes droits qu'eux. Donc on a un antisémitisme un petit peu qui est une forme de schizophrénie. En territoire allemand, on a aussi un antisémitisme qui est là à beaucoup plus une forme moderne. On a d'un côté un antisémitisme des Allemands. Je ne vais pas revenir sur la montée de l'impérialisme en Allemagne, l'antisémitisme, etc. Et un antisémitisme qui est plus traditionnel chez les Polonais. C'est-à-dire que chez les Polonais, dans cette partie-là, il est beaucoup plus basé sur cette idée du peuple déicide. On a une approche très différente, qu'on soit sur la partie prusse, mais en tant que territoire ancien, ou sur la partie polonaise. Et c'est un antisémitisme qui est un antisémitisme de campagne. Voilà, je passe un peu là-dessus, parce que sinon on peut en parler longtemps. J'avance pour parler de l'entre-deux-guerres et des différents visages de l'antisémitisme. Donc comme je vous l'ai dit, on ne peut pas comprendre l'antisémitisme en Pologne ou analyser l'antisémitisme en Pologne et plus généralement les relations entre Juifs et Polonais sans s'intéresser aux trois empires. Donc, au moment où la Pologne retrouve son indépendance, en 1917, 18, pardon, mais on cafouille un peu parfois parce que quand on lit les auteurs, c'est 18 ou 19. Parce qu'en fait, les traités de Versailles, c'est pas un traité de Versailles, c'est un ensemble de négociations et de discussions qui ont lieu entre 18 et 19. On a là une unité de l'État polonais, mais on a pourtant une résurgence de l'antisémitisme violent pendant la Première Guerre mondiale. Donc là, la Pologne n'a pas encore recouvré son indépendance. Et on a des phénomènes assez particuliers, puisque, comme vous le savez, pendant la Première Guerre mondiale, les trois empires dont je parlais, ils se battent entre eux. On a la Russie d'un côté, les forces austro-hongroises et prusses dans le même camp. Donc on a aussi des populations juives qui font partie de ces armées et qui se tapent dessus. La communauté juive la plus importante, je vous le disais, elle est en Russie. Autre phénomène qu'on a, c'est que comme on a une montée des impérialismes entre ces trois, dans ces trois empires, on a aussi une population qui est la victime facile dans les trois empires, c'est la population juive. On a un certain nombre de récits qui expliquent qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsqu'on a des territoires qui ont été conquis par un empire et reconquis par un autre, il y a des pogroms qui se passent, et parfois par les deux armées. Donc l'armée russe, je le disais tout à l'heure, en Russie, bon, on a un antisémitisme d'État, on a le tsar de Russie qui prône clairement une politique antisémite, donc son armée suit. Au sein de l'armée russe, on a des pogroms organisés contre des juifs qui font partie de l'armée russe et des pogroms qui sont mis en place par des officiers russes. Donc ça se passe essentiellement en 1916-1917. Vous pouvez lire, il y a des choses assez effroyables à lire là-dessus. Et puis, après, on a la Pologne qui redevient indépendante. 123 ans que la Pologne n'avait pas retrouvé son indépendance. Faut l'avoir en tête parce que, ce que je vous disais tout à l'heure, l'histoire de la Pologne, c'est très complexe parce que ce n'est pas une histoire, c'est des histoires. Et le pays retrouve son indépendance en 1919. Et là, évidemment, on a des courants nationalistes très très forts, extrêmement forts. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a eu, pendant la période des partitions de la Pologne, des mouvements politiques qui sont mis en place, dont un qui s'appelle l'Edencja, qui est un parti politique nationaliste, avec une personnalité importante qui s'appelle Roman Mouski, qui lui était clairement antisémite. Il a essayé de négocier avec le tsar de Russie pour mettre en place des politiques antisémites claires. Mouski, il avait une phrase, il disait « Il n'y a pas de place au bord de la Vistule pour deux nations différentes. » Et il parlait des Polonais et des Juifs. Ça, c'était sa philosophie politique. Mais ce nationalisme, il est finalement, même s'il est fort, il y a une personne qui est essentielle dans l'histoire polonaise, c'est le maréchal Piłsudski, qui est un héros de la Première Guerre mondiale et qui, lui, va réussir à atténuer la montée de ses nationalismes. Lui, déjà, il n'est pas catholique. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose dont on n'en parle jamais en Pologne, mais il n'est pas catholique, protestant. Et lui, il est déjà, quelque part, comme quelqu'un qui fait partie d'une minorité en Pologne. Lui, il est extrêmement tolérant. Il garantit la diversité du peuple polonais. Parce qu'on parle des Juifs, mais il y a également à cette époque en Pologne des Ukrainiens, des Biélorusses, des Russes, etc. etc. Il a un pouvoir qui commence en 1926 et qui s'arrête en 1935. Donc, même s'il préserve une certaine, je ne vais pas dire paix, parce qu'il y a un antisémitisme qui est toujours là, mais en tout cas, il n'est pas virulent. Il n'est pas violent. Par contre, les partis nationalistes antisémites prennent de plus en plus de poids. Il ne faut pas oublier qu'à cette période-là non plus, quand on est à la période de l'entre-deux-guerres, bon, on sait combien elle a été instable en Europe occidentale, mais là on parle d'un pays qui doit complètement se reconstruire. On parle d'un pays qui a perdu toute organisation gouvernementale pendant 123 ans. Donc tout est à reconstruire, y compris l'identité. Et on parle aussi d'un pays qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, continue de se battre, notamment pour défendre ses frontières avec la Russie. Et dernier phénomène, avant la Deuxième Guerre mondiale, on a Piłsudski qui perd le pouvoir et on a ce qu'on appelle la dictature des colonels. Et là, en Pologne, on a ce qu'on peut appeler une forme d'antisémitisme d'État. Là, on a trois colonels qui prennent le pouvoir, qui affaiblissent considérablement la démocratie et qui entretiennent des liens très très étroits avec les partis nationalistes, antisémites, xénophobes, qui reprennent certaines de leurs thèses. Plus que ça, un des colonels est complètement amadoué par Hitler. C'est-à-dire qu'il considère, il rencontre Hitler à plusieurs reprises et il est impressionné par les thèses défendues par Hitler. Cependant, et c'est là où il ne faut pas tomber dans le cliché, ça ne veut pas dire que l'antisémitisme se manifeste de façon violente avec des pogroms organisés. Là, je vais reprendre certains auteurs. Il y a, par exemple, Henri Michelès, qui est un historien français, qui parle pratiquement d'une politique d'arianisation, d'un parti qui soutenait les boycottages juifs économiques et éventuellement les mini-pogroms. Moi, je parle d'antisémitisme d'État. C'est quand même une notion qui est assez remise en question par certains. Il y a certains auteurs qui disent « Si l'on considère que la République a manqué de fermeté face aux pratiques antisémites récurrentes et qu'elle a permis le déploiement des discours antisémites et des pratiques anti-juives, alors là, on peut être d'accord avec la thèse d'un antisémitisme d'État. Cependant, il n'y eut jamais en Pologne une institutionnalisation de l'antisémitisme telle qu'elle exista sous le régime de Vichy ou durant le Troisième Reich. » Ça n'existe pas. Il y a, depuis longtemps en Pologne, et à cette période-là, ça continue, une question juive. C'est-à-dire, vous lisez un certain nombre d'auteurs, un certain nombre d'hommes politiques qui disent « qu'est-ce qu'on fait de cette minorité ?» N'empêche, on n'en est pas aux théories qui ont été celles qu'on a eues en Allemagne en disant « la minorité juive, on la supprime ». Ça n'existe pas dans la Pologne avant la Deuxième Guerre mondiale. Par contre, et ça c'est une réalité aussi, on a toujours, et ça c'est aussi une forme de spécificité polonaise, un antisémitisme qui est un antisémitisme qui vient du clergé, un antisémitisme de l'Église catholique. Encore une fois, il est plus fort dans certaines parties de la Pologne que dans d'autres. Je vais vous citer un exemple une citation qui est une citation du cardinal Lund en 1936 qui, dans une lettre pastorale, alors lui il est quand même primat de Pologne, et il dit « Il existe un problème juif qui subsistera aussi longtemps que les juifs ne cesseront d'être des juifs. Il était de fait que les juifs sont opposés à la doctrine de l'Église catholique, que ce sont des penseurs à l'avant-garde de l'athéisme et de la subversion bolchévique. Il est indéniable qu'ils exercent une influence pernicieuse sur la moralité publique et que leur maison d'édition publie des ouvrages pornographiques. Mais ne soyons pas injustes, ces constatations ne s'appliquent pas à l'ensemble des juifs. » Et ça, c'est typiquement le type de discours. C'est-à-dire que si on fait un parallèle avec ce qui se passe en Allemagne, c'est antisémite. Mais quelque part, il y a une forme de mesure, vous voyez, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et il faut quand même l'avoir à l'esprit, parce que les faits qui arrivent derrière sont importants. Je passe à la suite, excusez-moi, je vais juste prendre un peu d'eau. Quatrième partie, je parle de la mutation de l'antisémitisme des Polonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, ce que moi je pense, mais c'est aussi quelque chose qui est défendu par un certain nombre d'auteurs, on a deux formes d'antisémitisme. On a l'antisémitisme de l'occupant nazi et l'antisémitisme de la nation occupée, qui est un antisémitisme populaire, je vous en parlais, enraciné, hérité du début du siècle, mais qui n'est pas au départ, en 1939, un antisémitisme virulent. Je rappelle un petit peu les faits quand même. C'est qu'en 1939, la Pologne, c'est le premier pays qui est envahi par l'armée allemande. En un mois, il n'y a plus d'État en Pologne. C'est un pays qui est occupé, encore une fois, une occupation. Je mentionne aussi ces faits parce que, encore une fois, on ne connaît pas toujours bien l'histoire de la Pologne, mais quand on parle de souffrance du peuple juif d'Europe, du peuple juif polonais, les Polonais vous diront « et la souffrance des Polonais ». Il y a un historien britannique qui s'appelle Norman Davies, qui dit, il a écrit énormément d'ouvrages sur la Pologne, qui dit « rappelons-nous ça ». La Pologne, c'est le pays victime de ses voisins tout au cours de son histoire. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas un pays qui a souffert plus que la Pologne de différentes manières, parce que son territoire, il est saccagé, complètement saccagé, parce que sa population, elle est décimée. On a 6,5 millions de personnes qui meurent en Pologne. Les statistiques que j'ai, c'est environ 18% de la population totale. Et on a aussi une situation qui est particulière avec, et ça on l'a toujours en tête, l'attaque allemande. Il n'y a pas qu'une attaque allemande. Et ça on l'oublie souvent. Les frontières polonaises de l'Est, elles sont attaquées 15 jours après l'entrée de la Wehrmacht en Pologne, mi-septembre. 1er septembre, la Wehrmacht entre en Pologne. Mi-septembre, les Russes attaquent les frontières qui étaient en discussion avec la Pologne.
Ils ont fait la même chose en Finlande.
Exactement, exactement. Et donc, on a un peuple qui est complètement assiégé de part et d'autre, qui en plus n'a pas du tout les moyens de s'opposer. Je dis ça aussi parce que, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Katyn. Voilà, ça, pour moi j'ai vu ce film en Pologne. C'est un film qui, à travers l'histoire du massacre de ces généraux polonais par l'armée russe, vous remet très bien en place le contexte qu'on a en 1939. Je vais avancer. Une question qu'on se pose, c'est, on a les camps de concentration, on a 3 millions de victimes juives polonaises. 3 millions, donc sur un peu moins, entre 45 et 50% des victimes en Pologne, ces victimes sont des victimes juives. Et quel est le rôle des Polonais là-dedans? Et ça, c'est une question qu'on se pose. Moi, j'ai eu trop souvent, malheureusement, des clichés sur les Polonais, ils ont bien dû faire quelque chose, ils ont participé. Pourquoi? Parce qu'aussi, nous, on a le regard qu'on a celui en France. Donc je parle de la solidarité, de la passivité et de l'antisémitisme des Polonais. Il y a eu un peu de tout, en fait. Il y a eu un peu de tout. Solidarité. Solidarité parce que si vous allez aujourd'hui à Yad Vashem, le nombre de justes le plus important en termes de quantité, ce sont des Polonais. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a eu que des passifs ou que des collaborateurs. Évidemment, vous me direz, c'est normal qu'il y ait plus de justes puisqu'il y avait plus de juifs à sauver. Évidemment. Autre chose, la passivité. Alors, est-ce que être passif, c'est être coupable? Grand débat, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il y a quand même une chose qu'il faut avoir à l'esprit, et malheureusement on ne l'a pas assez souvent à l'esprit, c'est le statut des Polonais dans cette guerre et dans la hiérarchie telle qu'elle a été établie par les nazis. Ce sont des Slaves. Ce sont des Untermenschen. Ce sont des gens dont on dit qu'on doit éradiquer une partie, les occuper. Ce ne sont pas comme, par exemple, en France, on n'a pas ce phénomène-là. On n'est pas considéré à la même échelle. Les Polonais, à cette époque-là, ils sont eux aussi victimes de barbarie, Quand en 1939, et ça on le voit très bien dans le film Katyn, l'armée allemande arrive, on exécute le clergé, les intellectuels, il y a des pertes monumentales. Le pouvoir part en exil à Londres, on a une partie de l'élite militaire qui est tuée en Russie, et on a surtout quelque chose dont on parle très rarement, la législation qui est mise en place par le gouvernement allemand en Pologne. Elle est très simple. Tout Polonais qui assiste d'une manière ou d'une autre un juif est tué, ainsi que tous les membres de sa famille. Ça, ça n'existe nulle part ailleurs en Europe. Nulle part ailleurs. Donc, je ne dis pas que la passivité s'explique, mais ça a été fréquent. Sachez aussi qu'on parle beaucoup des camps de concentration, mais la plupart des juifs polonais, ils n'ont pas été tués dans les camps de concentration. Ils ont été tués par les Einsatzgruppen. Et qu'il était très facile pour des Polonais d'y passer aussi. Et il y a eu des cas énormes de Polonais qui se sont fait tuer pour assistance à personne juive. Maintenant, il y a dans le bouquin dont je vous parlais tout à l'heure, il y a eu des maîtres chanteurs en Pologne. Et maintenant, on a accès à un certain nombre d'archives de gens qui ont négocié avec des juifs de l'argent, des biens, en échange de leur liberté. Il y a eu de nombreux Polonais qui ont dénoncé. La délation a été extrêmement importante. Mais c'est impossible de donner des proportions. On ne peut pas donner de proportions. On n'a pas de statistiques là-dessus. Par contre, on a des archives, des courriers. La délation, elle est très bien documentée dans un article. Et parfois même, on a même de la délation qui a été faite par des juifs polonais contre d'autres juifs polonais. Des juifs polonais qui se sentaient plus assimilés, qui dénonçaient d'autres. Vous voyez qu'on est quand même dans une analyse qui est assez complexe. Maintenant, parlons de la solidarité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Gégota? Gégota, c'est un comité d'aide aux Juifs qui a été mis en place en 1942 par une dame qui s'appelle Sofia Kozak. C'est un organisme qui a sauvé la vie à plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers, de juifs et essentiellement des enfants. C'est un comité qui a été mis en place aussi grâce au soutien de quelqu'un qui est un historien, mais qui est devenu une personne importante en Pologne, qui s'appelle Władysław Bartoszewski, et qui a aidé grâce à des fondations juives en dehors de Pologne, grâce au gouvernement qui était en exil à Londres, à financer le départ, la déportation d'enfants juifs vers des territoires plus sains où ils pouvaient être sauvés. Et pourtant, et c'est là où je vais insister sur la complexité de la vision ou de l'image qu'on peut avoir de l'antisémitisme en Pologne à cette époque et le regard qu'on peut avoir entre l'antisémitisme et la collaboration. Je vous lis ça. Sofia Kozak. Nos sentiments concernant les Juifs n'ont pas changé. Nous ne cessons pas de voir en eux les ennemis politiques. Plus même, nous rendons compte qu'ils nous haïssent plus que les Allemands, qu'ils nous rendent responsables de leur malheur. C'est elle qui a fondé cette fondation. Quand vous lisez la lettre qu'elle a écrite, elle, c'est une écrivain polonaise, quelqu'un qui fait partie d'une élite intellectuelle, très catholique et très antisémite. Avant la Deuxième Guerre mondiale, elle distribuait des tracts antisémites. Je n'ai pas mis la suite, mais Sofia Kozak, sa réaction, c'est de dire « On ne les aime pas, on les haït. Mais nous sommes catholiques, nous les Polonais, et même si nous les haïssons, les voir mourir devant nos yeux, c'est impossible. On ne peut pas laisser faire. Et en tant que catholique, on se doit d'agir et d'intervenir. Je vous ai mis cette phrase-là parce que ça démontre toute la complexité de ce qu'on peut avoir à l'esprit quand on parle de l'antisémitisme. Elle est antisémite, clairement. Je vais vous dire même très clairement, moi j'ai connu son arrière-petit-fils. Il me l'a dit, il me le disait. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et pourtant, c'est une héros. Elle fait partie des justes aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça que tout est beaucoup plus complexe que ça n'a l'air. Et ce qu'elle a, et le nombre de personnes juives qu'elle a sauvées, c'est pas une ou deux, hein, c'est plusieurs centaines. Donc, ce que je reviens à mon discours, quelle est la nature de l'antisémitisme pendant la guerre? Donc, je vous parle d'une dichotomie. On a d'une part une tradition antisémite inspirée de la Pologne de l'entre-deux-guerres. Je vous parlais tout à l'heure du nationalisme qui montait, de partis politiques comme les Densia qui prônaient la haine des Juifs. Donc, on a une haine culturelle des Juifs. Mais ce qui est nouveau, c'est que on a une répression qui se fait maintenant par la violence physique. Et la violence physique, ces pogroms organisés, ils sont d'abord d'inspiration nazie. C'est les nazis qui mettent en place les camps de concentration. J'ai travaillé à Auschwitz-Birkenau. C'est eux qui mettent en place tout ça. Je sais que parfois, un certain nombre de personnes, mais les Polonais, qu'est-ce qu'ils faisaient? On a eu des actes de participation, mais cette vision sur l'extermination des Juifs, c'est quelque chose qui n'a jamais existé en Pologne avant 1939. Même ces partis politiques de l'Indensia, etc., ils ne parlent jamais de l'extermination des Juifs. Ils parlent de la question juive et de trouver une solution. Et à cette époque, on parle même de déportation vers l'Afrique, etc., etc., vers d'autres territoires, mais on ne parle pas d'extermination. Donc, c'est ce que je dis, on a des Polonais qui, par contre, eux, s'appuient sur le modèle de l'occupant. On a des Polonais qui participent à l'extermination. Un exemple, le pogrom de Jedwabne. Le pogrom de Jedwabne, c'est un pogrom qui est extrêmement bien documenté aussi par un livre qui a fait fureur quand il est sorti. Là, je ne pèse pas mes mots. Encore une fois écrit par Jan Tomasz Ross, qui s'appelle Les voisins. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on a eu plusieurs personnes qui, déjà dans les années 80, parlaient de pogroms dans lesquels les Polonais ont participé pendant la Deuxième Guerre mondiale sans que ça soit une mise à mort décidée par les Allemands. Le pogrom de Jedwabne, c'est le parfait exemple. Le pogrom de Jedwabne, il a eu lieu au nord-est de la Pologne. Tiens, comme par hasard. Dans une partie qui était une partie russe, dans une partie qui était une partie où on savait ce que c'est que les pogroms organisés. Jedwabne, c'est un bourg. On a une population juive qui correspond entre 50 et 60% de la population de ce village. Et là, et c'est un, je veux dire, je vais vous parler un peu des faits, mais c'est effroyable ce qui se passe. La population du village, qui est certes occupée, il y a des nazis qui sont là, qui occupent le village. Les nazis suggéraient aux Polonais de participer évidemment à la délation et à la torture et au massacre des Juifs. Mais là, c'est la population qui s'y met de manière relativement autonome. Ça part encore une fois d'une histoire de rumeur, je ne l'ai plus en tête, mais on force des Juifs à faire des corvées, on les tabasse, on les massacre, certaines femmes sont violées, on les pille, et pire, à la fin, on les enferme dans une grange et on les brûle. Ce pogrom, il est perpétré par la population de ce village. Aujourd'hui, en Pologne, vous avez un film qui s'appelle Pokłosie, qui est sorti il y a 3 ou 4 ans, qui parle de ce pogrom sans le nommer. Je vous invite à le voir si vous avez l'occasion. On ne sait pas qu'on est là-bas, mais on comprend à travers une fiction tout ce qui a pu se passer, et le déni total après. Jan Tomasz Gross, quand il a sorti ce livre sur les voisins, ça a déclenché des réactions extrêmement hostiles, où évidemment, dans un pays où, pendant 60 ans, vous avez entendu que c'était les nazis qui avaient perpétré ce pogrom, voire même, on n'en parlait pas. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez le voir d'ailleurs, il y avait une plaque commémorative qui disait « En 1941, les Allemands ont perpétré ce pogrom. » Ce pogrom, il a été ensuite reconnu, c'est-à-dire la culpabilité de la population polonaise a été reconnue par, je crois que c'est le président Kwaśniewski, juste après, et évidemment on a changé la plaque, et il y a eu des cérémonies qui ont été mises en place. Aujourd'hui, on parle de ce pogrom comme un acte délibéré de la population polonaise de ce village. Voilà, donc ça, c'était pour la partie concernant l'antisémitisme pendant la guerre. Maintenant, revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure et des faits dont je vous ai parlé en 1945-46. Et essayons de comprendre et de comprendre quel type d'antisémitisme on a à cette période. Donc moi, je pense qu'il faut réfléchir et savoir dans quel contexte historique on est à ce moment-là. À ce moment-là, on a la disparition d'un État à nouveau. Là, je parle de la perception polonaise. Quand on est en Pologne en 1945-46, la majorité des Polonais qui viennent de subir la Seconde Guerre mondiale voient un nouvel occupant qui arrive, l'occupant soviétique. On a une nouvelle occupation. Là, encore une fois, il y a des Polonais qui ont adhéré à l'idéologie communiste. On a eu des pertes civiles considérables, des pertes militaires considérables, dont certaines d'entre elles perpétrées par le nouvel occupant, un territoire saccagé. On a une perte identitaire totale. On a eu les Allemands d'un côté, on passe maintenant aux Russes, aux ennemis de toujours qui nous occupent. On a le spectre de la mort qui est partout. N'oubliez pas qu'il y a des camps de concentration en Pologne, mais il y a encore toutes les traces des pogroms, il y a toutes les traces des exécutions collectives qui ont eu lieu, tous ces bâtiments qui ont été détruits, les synagogues, pour les bâtiments juifs, tous les bâtiments culturels, mais aussi les bâtiments polonais. On a 6 millions de Polonais qui ont perdu, 6 millions et demi qui ont perdu la vie, et on a un communisme qui est imposé par la force, et qui a été imposé au moment où l'armée soviétique intervenait sur le territoire. L'entrée du communisme en Pologne, il s'est fait avec l'entrée de l'armée rouge en Pologne. Et il a été imposé. Encore une fois, je pense que dans cette salle, les gens ne pensent pas de cette manière-là, mais moi, je me souviens très bien que lorsqu'on me parlait de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, moi, je voyais l'armée rouge héroïque qui a libéré les territoires de l'Est, mais sauf que quand elle libère, elle impose aussi et elle éradique aussi toute une intelligentsia et elle impose son système. Donc on a un régime de terreur. Je parle du contexte parce que il est important pour pas accepter l'antisémitisme violent, évidemment, qui se passe à ce moment-là, mais pour comprendre la situation des gens qui vivent sur ce territoire à ce moment-là. Je vais citer encore quelqu'un, Laure Adler, qui reprend un pan de la philosophie d'Anna Arendt et qui dit « Par essence, la terreur détruit l'individu et transforme le pouvoir en décret supérieur et surhumain dont dérive sa force absolue. La version nazie du totalitarisme nie encore plus radicalement l'humanité et sa liberté car elle est basée sur une pseudo-nature. » Et moi, ce que je dis, c'est que c'est à la lumière du phénomène de déshumanisation de l'individu, lié à une terreur outrancière imposée depuis 1939, que les violences contre la minorité juive en 1945-46 doivent être appréhendées. On a un antisémitisme virulent dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec ce pogrom à Kielce, les autres. Et finalement, c'est une concrétisation de ce que les nazis voulaient. Et ce qui est atroce dans cette histoire, c'est que quand ils partent, les Polonais qui sont sur ce territoire mettent en place pendant, ça dure 2 ans, des solutions qui avaient été prônées par l'occupant nazi. Le nazisme a transformé la relation des Polonais aux Juifs et a accentué le sentiment de différence entre les deux peuples. Ce qu'il faut savoir aussi, j'en ai peu parlé, mais ce qui revient dans la bouche de beaucoup de Polonais dans les campagnes, mais pas seulement, chez des hommes politiques, c'est qu'on considère que les Juifs étaient communistes. En polonais, on a ce qu'on appelle la jidu komuna. Ça veut dire que, et ça, c'est pas, ça date pas de 1945-46, ça a commencé dès 1917, lorsque, encore une fois, en territoire russe, on a pendant la Première Guerre mondiale en 1917, les communistes qui prennent le pouvoir, on a un empire russe où il y a des Juifs et des Polonais. Et il est vrai que beaucoup de Juifs sur ce territoire ont adhéré à l'idéologie, mais pour une raison simple. L'idéologie communiste leur donnait les mêmes droits que ceux des Polonais, des droits que les Juifs n'avaient jamais eu pendant des siècles de politique polonaise sur ces territoires. Donc il est vrai que dès 1917, on a un certain nombre de Juifs sur cette partie du tronçon que je vais appeler de territoire polonais occupé par les Russes, où des Juifs adhèrent et même rentrent dans l'appareil communiste de l'époque, c'est vrai. Sauf que sur ce territoire-là, les Polonais considèrent que les Juifs sont des traîtres à la nation polonaise. On est en 1917-18, quelques années avant la nouvelle indépendance de la Pologne, et donc les Juifs sont perçus à ce moment-là comme des Juifs polonais qui, finalement, ont un pacte avec les envahisseurs russes. Et ça continue, ça revient encore en 1945-46. Donc c'est aussi dans ce contexte-là que se perpétuent ces pogroms. C'est ce que je vous dis ici. On a en 45 aussi un relent aussi, et notamment dans les territoires du Nord-Est, cette idée que les Juifs font partie des protocoles, enfin qu'il y a une existence des protocoles de Serge de Sion, et qu'ils sont là finalement pour participer à la fin de la Pologne et à son éradication. Donc, pour terminer, ce que je dis, c'est que en 1945-46, ce qui est particulier, c'est qu'en Pologne, alors que on a en Europe occidentale et dans une grande partie de l'Europe plutôt un antisémitisme moderne, c'est-à-dire qu'un antisémitisme qui est plutôt culturel, une jalousie, où on va être antisémite parce qu'on va considérer que les Juifs sont des capitalistes qui pillent la richesse, etc. On a en Pologne les deux. On a ça, mais on a encore un antisémitisme traditionnel. D'ailleurs, je n'ai pas les mots là, mais la réaction du cardinal Long, dont je parlais tout à l'heure, après le pogrom de Kielce, il les condamne, mais toujours avec cette même ambiguïté, où il dit c'est effroyable ces pogroms, mais quand même, si c'est arrivé, c'est quand même qu'il y a du lien, il y a avoir quelque chose qui a été fait par ces Juifs. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Juste, si j'ai le temps, j'ai juste une conclusion. Cette fois-ci, je vous la lis. À la lecture de l'histoire de la Pologne, il est peu probable que l'intolérance à l'encontre des Juifs disparaisse rapidement, surtout dans le contexte politique actuel, malheureusement, et le nationalisme ambiant. Je dis ça parce que à chaque fois qu'on a une montée du nationalisme, comme corollaire, on a la montée de l'antisémitisme et de la xénophobie en général. L'antisémitisme est trop enraciné en Pologne. Les formations sur l'Holocauste et l'antisémitisme instaurées par les nombreuses institutions du primaire, du secondaire et dans les universités doivent être généralisées pour combattre l'intolérance. Ces démarches accompagnent de nombreuses initiatives qui constituent un premier effort pour diffuser un message de tolérance au peuple de Pologne. Elles contribuent plus généralement à la réalisation d'une introspection nationale nécessaire qui, selon moi, a commencé, mais selon les partis politiques au pouvoir, elle a lieu plus ou moins fortement et elle est soutenue plus ou moins fortement par le régime en place. L'antisémitisme en vigueur dans la Pologne d'aujourd'hui, communément appelé antisémitisme sans juif, confirme l'idée qu'une nouvelle forme d'antisémitisme est née durant la deuxième moitié du XXe siècle. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
J'espère que je n'ai pas été trop long.
Non, ça va. Je pense qu'il y a des questions. Est-ce qu'il reste des
Alors,
juifs en Pologne?
C'est une bonne question. C'est pour ça que d'ailleurs, il y en reste. Et contraire, alors encore une fois, juste une estimation. Combien vous imaginez qu'il y a de juifs habitants en Pologne aujourd'hui?
2 000.
Allez, 10 000.
Oui, c'est marrant parce que on imagine, les estimations que vous faites sont toujours en dessous de la population qui existe. On n'a pas de chiffres précis. Mais on considère qu'il y a entre 40 et 80 000 juifs qui vivent en Pologne aujourd'hui. Et on a plutôt...
Déclaré
en, non, aujourd'hui, on a plutôt une nouvelle augmentation de la population juive. Ce qui est problématique, c'est que vous avez en Pologne des gens qui ne savent pas qu'ils sont juifs. Évidemment. Vous avez, quand je parle, vous avez des reportages. Regardez, il y a, sur France 24, il y avait quelque chose comme ça qui est passé il n'y a pas très longtemps. La Pologne redécouvre son passé juif. Il y a eu l'ouverture à Varsovie d'un très très grand musée sur la culture juive qui est exceptionnelle. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de le voir encore, mais il y a des gens qui, en y allant, se sont rendus compte qu'ils étaient juifs. Ils avaient été sauvés. Il y a un reportage de quelqu'un qui a été sauvé par des sœurs. Tous les gens qui ont été baptisés catholiques pour être sauvés. Le travail de Gégota. Il y a un tas de gens qui redécouvrent leur judaïté. Après, il y a des gens qui ne veulent pas en parler tout simplement. On ne va pas s'inscrire en disant « moi, je suis juif ». Il y a des gens qui sont assimilés aujourd'hui en Pologne. Je vais vous dire aussi autre chose. Moi, j'ai vécu à Cracovie, j'y vais régulièrement. Aujourd'hui, quand vous êtes en Pologne, notamment dans les grandes villes, il y a quand même une vie culturelle juive qui est de plus en plus importante. À Cracovie, et ça, c'est pareil. Ça m'hérisse un peu, mais on n'en parle jamais en France. Vous avez le plus gros festival de la culture juive en Europe. Il a lieu à Cracovie. Pourquoi ça mérite? Parce qu'on a quand même en France des juifs qui viennent de Pologne, qui sont nombreux. Est-ce qu'ils y participent? Non. Je vais vous dire, je le sais parce que moi j'y suis allé pendant plusieurs années, c'est toujours la communauté juive américaine et anglo-saxonne en général, qui finance, qui organise des choses. Et c'est un festival extraordinaire. Vous ne pouvez même pas imaginer si vous n'êtes pas allé. Pendant une semaine, vous avez du matin au soir des conférences, des ateliers. Il y a des cours pour apprendre le yiddish. Il y a des choses sur tous les mouvements qui ont été des mouvements en Pologne, par exemple, la Haskala, etc. On vous explique un certain nombre. Vous pouvez revisiter des juifs. Des lieux de culture juive dans ce quartier. C'est exceptionnel. Et ce n'est pas du tout un festival qui est un festival qui travaille sur le passé. Vous avez tous les courants, par exemple de musique actuelle, électronique, le rap, etc., mais avec toujours cette, ça me fait rire parfois, mais connotation juive, parce que simplement, parfois, simplement les chanteurs sont juifs. Et c'est exceptionnel. Et c'est d'ailleurs, il faut savoir que ce festival à Cracovie se termine un samedi soir et il est retransmis en direct sur la télévision polonaise. Donc en France, on a toujours, souvent d'ailleurs, cette image comme ça, on pense au camp de concentration et on ne pense pas à ce qui s'est passé après. Je vais vous laisser poser d'autres questions, mais je vous parlerai après d'autres choses, une expérience que j'ai.
Oui, d'abord.
Est-ce que vous pouvez confirmer que les Russes sont stoppés au moment du ghetto de Varsovie?
Ah oui, ça c'est ça, tous les historiens sont d'accord.
Les quoi, les quoi, tu dis?
C'est-à-dire que quand il y a eu la campagne russe pour libérer les territoires de l'Est, Staline a clairement laissé les Allemands détruire la ville de Varsovie. Staline avait une haine anti-polonaise extraordinaire.
Oui. Attends, Jean.
Oui, d'abord, je voudrais juste rappeler qu'il y a eu le week-end dernier, samedi dernier, je crois, une grosse manifestation nationaliste et xénophobe, enfin d'extrême droite, on va dire, à Varsovie, qui a rassemblé, disent les agents de presse, à peu près 60 000 personnes, hein, et avec de fortes, une tonalité fortement antisémite.
Exactement.
Hein, mais vraiment déclarée, hein, pas cachée, pas dissimulée. Alors, ensuite, je vais dire plus brièvement. Je ne connais, je ne suis pas du tout un spécialiste de la Pologne comme vous. En revanche, je connais plutôt bien l'histoire de l'Empire austro-hongrois et donc par là même de la Galicie tant qu'elle a été sous domination autrichienne. Pour rappeler quand même ces deux choses un peu contradictoires qu'il y avait. Alors en Autriche, un fort antisémitisme aussi, mais comme vous l'avez évoqué, par rapport à l'antisémitisme allemand de la même époque, beaucoup plus teinté de catholicisme. Hein, et les cadres de l'Église catholique, jusqu'aux évêques et cardinaux, pouvaient avoir des prêches fortement antisémites. De Vienne ou de Prague jusqu'à Cracovie et même au-delà, avec quand même cette différence qu'il faudrait souligner, c'est que l'empereur, qui s'appelait François-Joseph, à la différence de son petit collègue de Berlin, Guillaume II, alors Guillaume II était un antisémite virulent, hein, il faut le rappeler, si je vous disais toutes les déclarations de Guillaume II, qui a même dit en 1906, ce qu'il faudrait, c'est tous les gazer, on aurait fini avec le problème. En 1906, c'était pas du tout le cas de François-Joseph, qui, en Galicie et même en Bucovine ou en Ruthénie, là où il y avait beaucoup de juifs aussi, prenait assez nettement la défense des juifs, partout, hein, et il n'hésitait pas à nommer des barons, à anoblir des juifs quand ils avaient réussi un petit peu et qu'ils lui avaient marqué un petit peu de fidélité. Alors il y avait des barons juifs en Pologne, en Galicie, en Autriche, en Bohême, puisque c'était, hein, ça, c'est au grand scandale des Allemands d'ailleurs, et Guillaume. Et François-Joseph a bloqué pendant plusieurs années la nomination d'un maire de Vienne à cause de son antisémitisme, j'allais dire notoire, pas notoire, virulent. Hein. Et bon, il a dû céder plusieurs années, mais quand même il a essayé de tout faire pour bloquer l'action antisémite de ce maire de Vienne, qui a laissé quand même un an. Donc il faut quand même voir que au sommet de l'État autrichien, il y avait quand même une attitude délibérément protectrice des Juifs, qui ne se retrouvait pas du tout ni tellement dans l'armée, ni et encore moins dans l'Église catholique. Alors ça s'est retrouvé donc en Galicie, et ça a pu déteindre sur la Pologne.
J'ai pas pu le... En fait, à la fois, je suis pas allé trop dans le détail parce que c'est compliqué d'examiner chaque tronçon de manière individuelle, et aussi parce que très honnêtement, en 2008-2009, quand je travaillais sur ces trois tronçons de la Pologne, je maîtrisais ça beaucoup mieux. Et en relisant mon mémoire, c'est exactement ce que j'ai écrit quelque part. J'ai même le nom des personnes dont vous parlez.
Oui, je vais pas vous citer.
Où il y a je vais vous le donner. Où en effet, c'est vrai qu'il y a eu cette défense des différentes minorités. C'est ce que j'expliquais un peu d'ailleurs sur le peut-être maladroitement, mais de la protection de François-Joseph des différentes minorités. Qui crée une jalousie en territoire.
Les Juifs étaient les plus fidèles soutiens politiques de François-Joseph dans tout l'Empire. Ouais. Hein, c'est ce qu'il faut dire aussi.
Notre empereur. Oui, il y a une question.
Pardon. C'est pour ça que la Pologne d'aujourd'hui, ou depuis 45 jusqu'à aujourd'hui, quelle relation entre l'antisémitisme historique en Pologne et le sionisme? Est-ce qu'il y a un antisionisme aujourd'hui qui est en relation avec l'antisémitisme?
Alors, je vais essayer de combiner votre question avec ce que vous avez dit sur la manifestation à Varsovie. Alors, moi, malheureusement, j'ai pas eu le temps pendant les années précédentes de m'intéresser à la Pologne comme j'avais pu le faire avant, puisque je vivais en Asie centrale. Donc je m'intéressais énormément à ce qui se passe en Asie centrale, et comme je travaillais pour le ministère des Affaires étrangères, je devais aussi m'intéresser à ce qui se passe dans mon pays, puisque je le représentais. Donc ça faisait déjà beaucoup de choses. J'ai suivi comme ça en filigrane un petit peu ce qui se passait, et finalement, même en 5-6 ans, les choses n'ont pas complètement changé. Le nationalisme en Pologne, et cette idée d'un... Chez beaucoup de Polonais, c'est-à-dire qu'il y a toujours une peur. Que nous, peut-être à raison, on ne comprend pas, mais quand vous voyez ce qui se passe, ce qui s'est passé par exemple avec la Russie, dans la. Ça va me revenir, mais l'incorporation de cette partie de l'Ukraine à la Russie, la Crimée, les Polonais ont tout de suite un sentiment de peur qui les envahit. Et regardez ce qui se passe sur les sanctions. Les Polonais et les peuples, pas que les Polonais d'ailleurs, hein, tous les régimes d'Europe centrale sont pro-sanctions contre la Russie. Voire pire. Il y a des bases militaires américaines qui ont été installées là-bas. Je ne sais pas si vous avez entendu aussi le discours de, peut-être pas trop le citer, parce qu'il est beaucoup cité en ce moment, mais de Trump quand il est allé en Pologne il y a quelques mois. Je veux dire, il a rendu hommage à cette Pologne qui se défendait, etc. Et les Polonais étaient ravis. Il a flatté l'ego du gouvernement polonais en leur disant « C'est très bien, vous résistez, etc. » Donc, il y a ça. Et ces manifestations qui ont lieu actuellement, c'est là où je voulais en venir, c'est que, ouais, elles sont teintées d'antisémitisme. Parce qu'il y a, dans les campagnes polonaises, mais pas seulement, il y a une espèce de revendication nationale qui s'appuie toujours sur de la xénophobie et de l'antisémitisme, mais assez souvent, les gens ne savent même pas pourquoi. Moi, quand je parle parfois avec des gens, pas qui sont particulièrement antisémites, mais qui ont des doutes sur les Juifs ou d'autres, en fait, je me rends compte que ce qui est frappant, c'est leur méconnaissance. Ils ne savent pas ce qui passe. Mais aujourd'hui, en Pologne, quand vous parlez de la méconnaissance et quand vous parlez des relents nationalistes, il n'y a pas cette connaissance du Moyen-Orient en Pologne comme on l'a nous. Il n'y a pas cette connaissance qu'on a du Maghreb comme on l'a nous. C'est-à-dire, dès qu'on parle d'islam en Pologne, les gens sont perdus, ils ne savent pas ce que c'est.
C'est l'ennemi.
C'est une nouvelle peur. C'est-à-dire que bon, le russe, on sait ce que c'est, l'allemand, on sait ce que c'est, les autrichiens, on sait ce que c'est. Mais alors, l'islam, on ne sait pas ce que c'est des terroristes. Faut savoir que la Pologne aujourd'hui, et moi je suis tenté de dire malheureusement, est l'un des territoires les plus homogènes d'Europe. Sa plus forte minorité, la minorité juive, elle a atteint jusqu'à 12% de la population. Elle a été éradiquée à 90%. Mais derrière, on n'a pas eu d'autres minorités. Et vous regardez les réactions des Polonais quand on parle de la solidarité. Hein. C'est effroyable. Maintenant, parlons du sionisme. Ce qui est très intéressant, c'est... Alors là, je ne suis pas expert, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais durant les années 60, 67-68, il y a eu une campagne antisémite mais qui était plutôt anti-sioniste en Pologne, parce que l'Union soviétique soutenait la Palestine. Et c'est très intéressant, le responsable à l'époque s'appelait Gomułka, il a proféré, il a eu des propos contre la minorité juive extrêmement durs. Alors, on ne parle pas de pogrom, hein, mais où on a encore une fois eu un relent d'antisémitisme. Et ce qui est très, ce qui est très intéressant, c'est ce que des historiens disent, c'est intéressant de voir comment les soviétiques, d'une certaine manière, ont considéré dans les années 45-46 que les juifs, c'était leurs meilleurs alliés sur le territoire polonais pour mettre en place le régime communiste, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Ils se méfiaient beaucoup plus des Polonais catholiques que des juifs polonais. Et finalement, on a eu beaucoup, beaucoup de juifs qui ont fait partie de cet appareil politique communiste. Mais la raison qui a fait qu'on s'est appuyé sur eux, c'est-à-dire le fait qu'ils soient juifs, a joué à l'inverse quand en 1967-68, on soutient la Palestine, donc finalement les juifs, ça devient les responsables. Et donc là, il y a une campagne antisioniste. Aujourd'hui, de dire que est-ce qu'il y a de l'antisionisme en Pologne, je ne sais pas. Je peux pas trop vous dire parce que je ne connais pas assez bien le sujet, mais je pense franchement que... Allez, je serais tenté de dire que pour des Polonais, c'est bien qu'il y ait Israël. Parce qu'ils ne reviennent pas.
Beaucoup des premiers dirigeants d'Israël venaient de Pologne.
Exactement. Et d'ailleurs, exactement. Et vous avez énormément de juifs polonais qui ont fait leur alia. Et ça commence. Tous les moments de l'histoire de la Pologne, à partir de 1939, il y a eu ça. Donc, la Pologne est plutôt un gros soutien d'Israël, pour ce que j'en sais. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails.
Est-ce qu'on peut parler des relations entre Staline et Trotsky?
Oula!
C'est pas comme le sujet.
Là, je ne peux pas rentrer dans le détail. Je ne suis pas assez connaisseur. Voilà.
Trotsky, il était juif.
Oui, bien sûr.
Pourquoi Staline l'a fait assassiner à Mexico?
Vous pensez qu'il l'a fait assassiner parce qu'il était juif? Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas, mais... Il a fait assassiner beaucoup de monde, c'est vrai.
Oui. Comment expliquez-vous qu'après la guerre, des Polonais apatrides sont venus ici et ils n'avaient pas de carte d'identité
Alors,
ils étaient apatrides.
Apatrides.
Je vais essayer de...
Mais juifs ou... Juifs
Yankelevitch, par exemple.
Yankelevitch. Je ne peux pas vous donner la réponse, mais... Parce que j'ai pas le détail, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai relu ça il y a pas très longtemps, mais j'avais oublié ça aussi. Quand on est en 1939, on a des territoires qui sont envahis par l'armée soviétique. Il y a une forte concentration d'huile et on a des juifs qui sont déportés vers, non pas ce qu'ils souhaitaient, l'extérieur, mais l'intérieur de l'Union soviétique. Je viens d'Asie centrale, j'ai vécu en Asie centrale, vous avez des juifs au Kazakhstan, en Ouzbékistan, etc., qui ont été déportés, ils ne le souhaitaient pas à l'époque, mais paradoxalement, ça leur a sauvé la vie. Et on a eu des minorités juives qui, voyant le conflit qui arrivait donc, du nord de la Pologne, ont délibérément été plus à l'est, vers l'Ukraine, etc. En Ukraine, il y a eu également beaucoup de pogroms, et encore plus à l'Est. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que pendant la période soviétique, il y a un certain nombre de ces juifs qui ensuite ont émigré vers l'Occident. Pour ça, il fallait qu'ils aient l'autorisation des responsables politiques. Et c'est, à mon avis, là-dedans, avec tous ces voyages, qu'on fait qu'on a une situation de nombreux juifs qui ont été... apatrides, je ne sais pas s'ils étaient apatrides, je ne crois pas que c'était le terme, je crois que c'est qu'ils n'avaient plus de papier. Moi, j'ai une histoire, enfin, je vous en parlais tout à l'heure, c'est celle de Marek Alter, vous le connaissez peut-être. Ben, Marek Alter, moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, et pour parler de l'antisémitisme, pour être très honnête avec vous, j'ai eu la chance, c'était un moment très émouvant, enfin la chance, pas vraiment une chance, mais... J'ai pu participer à une commémoration du pogrom de Kielce avec Marek Alter qui a prononcé des mots. Et je l'ai connu au Kazakhstan. Parce que, et pourquoi je vous dis ça, c'est que Marek Alter m'a raconté une fois, et à l'époque on était en Pologne, que lui, en fait, il fait partie de ces Juifs qui a été déporté d'abord vers l'Ukraine et ensuite en Asie centrale. Il a vécu au Kazakhstan et un peu en Ouzbékistan. Et ensuite, il a été rapatrié. Il m'a raconté ça une fois, il m'a dit, je revenais sur les territoires de Pologne après la guerre, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était entre 45-50, et il me dit, on avait des familles et des enfants qui nous jetaient des cailloux. Et ensuite, il s'est installé avec sa famille en France. Voilà. Ça, c'est une histoire, pour parler de la sienne.
Je voulais savoir, parce que bon, c'est pas tout à fait le sujet, mais puisque vous en parlez, si en Ouzbékistan et en Kazakhstan, il y a de l'antisémitisme, parce que c'était des régions aussi dominées par l'Empire soviétique, et il y avait des Juifs apparemment.
Alors, ce qui est...
Des musulmans, en
plus. Oui, en plus.
Ce qui est...
Bon, mais ça a une importance maintenant. Mais en 45 peut-être ou en 50, je ne sais pas si.
Alors
si
aujourd'hui, moi je connais surtout l'Asie centrale d'aujourd'hui. Ce qui est très clair, c'est qu'en Asie centrale se propagent des idées qui viennent de Russie. Ça, il faut le savoir. On n'en a pas forcément conscience aujourd'hui, mais en tout cas au Kazakhstan, un Kazakh, ce qu'il regarde en majorité, la majorité des Kazakhstanais, ce qu'il regarde le plus, c'est la télé russe. La télé russe actuellement, et les hommes politiques russes, et pas seulement, sont pas particulièrement ouverts, et il y a encore un certain nombre d'idées antisémites et xénophobes en général. Moi, j'ai des amis africains qui ont vécu en Russie pendant 10 ans, ils me disent que c'était plus facile il y a 10 ans qu'aujourd'hui. En Asie centrale, du coup, vous avez aussi, à travers la télé, les médias, ce type d'informations qui passent. Ce qui, moi, m'a frappé, je vais pas parler d'antisémitisme parce que quand vous vivez au Kazakhstan et en Ouzbékistan et dans toutes les républiques d'Asie centrale, vous vivez dans des États qui sont nouveaux. Contrairement à la Pologne, ils n'ont jamais existé en tant qu'État-nation, entre guillemets. Ils n'ont jamais existé avant. Donc ils sont plutôt dans une construction. Et dans cette construction, ils sont plutôt, non pas dans un, comment dire, oui, il y a du nationalisme, mais ça ne répond pas aux critères que nous, on entend en Europe. C'est plutôt une construction identitaire. Donc, on est moins dans le rejet. Quand vous êtes au Kazakhstan, vous êtes dans un pays, vous avez des minorités partout. Il y a plus de 120 minorités reconnues au Kazakhstan. Faut savoir que le Kazakhstan, c'est un pays qui, à son indépendance, comprenait une population kazakh, ethniquement kazakh, qui était elle-même minoritaire. Donc forcément, vous avez les Slaves, etc., donc vous faites avec. Et ça, c'est pour le coup, hein, je vais le dire très clairement, c'est l'intelligence du président Nazarbayev. C'est qu'il a ouvert le peuple à la tolérance là-dessus. Maintenant, ce qui m'a frappé, moi, c'est que vous avez, quand vous êtes dans toutes les contrées, les anciennes contrées soviétiques, un réflexe, c'est que être juif là-bas, c'est pas comme chez nous. C'est-à-dire que nous, on dit... Quand je vous ai vu, je ne vous ai pas dit, madame, « Ah, vous êtes juive !» Non, vous êtes française, argentine. Pas là-bas. Parce que, en Russie, voilà, il n'y a pas eu d'assimilation. Et dans ces territoires, il n'y a pas eu d'assimilation. Et ça, c'est très frappant. C'est-à-dire que moi, j'avais une amie juive en Ouzbékistan, j'ai née au Kazakhstan, elle va me dire « Je suis juive. » Je dis « Non, mais d'accord, mais... » Et après, elle va me dire, je suis russe ou d'origine russe, etc. Mais je suis juif d'abord. Mais également, à l'inverse, chez les Kazakhs ou en Asie centrale, on ne va pas avoir de problème à vous dire, mais toi, t'es quoi? T'es juif? Comme on vous dirait, t'es arménien. C'est très particulier, c'est très surprenant. Et je vais vous dire, moi, à plusieurs reprises, comme français, j'ai réagi de manière en disant, mais vous savez, si vous disiez ça en France, mais ça serait hyper mal vu. Allez, je vais vous donner une anecdote. Quand j'ai négocié le loyer de mon appartement Kazakhstan, la propriétaire, qui était certainement russe, mariée avec un Kazakh, mais elle-même, elle avait des origines tatares, etc. Comme j'ai négocié deux ou trois fois, et que je suis assez bon dans la négociation, elle m'a dit, au troisième rendez-vous, « Mais vous êtes juif ou quoi ?» Alors, je ne suis pas juif du tout. C'est pas grave, mais je lui ai dit, « Mais attendez, madame, non seulement ça me choque, mais en plus, vous savez que je travaille pour le ministère des Affaires étrangères français. Faites un peu attention. » Mais c'est pas vu comme une insulte. C'est...
Mais il y a quand même l'idée que les juifs négocient. Voilà. Et...
Ah non, mais les clichés sur les juifs. Clichés. Et sachez aussi qu'en Russie, les protocoles des sages de Sion, c'est toujours d'actualité. Hein. Il y a eu des reportages encore il n'y a pas très longtemps. Ils sont encore mis au bout du jour. Hein. Je veux dire, le complot juif en Russie et ailleurs, ça existe encore beaucoup.
Oui.
Je voulais dire que bon, cet antisémitisme a commencé par de l'anti-judaïsme,
oui.
Le peuple déicide. Il faut bien dire anti-judaïsme.
Bien sûr.
Et je voulais vous demander, le pape qui était polonais, est-ce qu'il a eu une influence sur l'antisémitisme? Parce qu'actuellement en France, sur le plan chrétien, il y a quand même une avancée. Est-ce qu'en Pologne, par l'intermédiaire de ce pape...
Jean-Paul II, en général, on peut plutôt le voir comme quelqu'un qui a été un rassembleur. Je veux dire, sur cette question de l'antisémitisme, etc. D'abord, Jean-Paul II, en Pologne, il n'a pas la même image qu'il a chez nous. Ça, c'est aussi particulier. Quand vous vivez en Pologne, Jean-Paul II, c'est de Gaulle, quoi. C'est-à-dire... Non, mais c'est pas... Moi, par exemple, je suis ni juif, ni catholique, ni polonais. Pour ça aussi, non mais je vous le dis, c'est une parenthèse, mais c'est pour ça que pour moi c'est beaucoup plus facile de parler de ces choses-là. Je sens pas. Si j'ai un grand-père qui était résistant, bon, voilà. Mais à part ça, j'ai pas d'émotion. J'ai pas l'impression de trahir ou défendre l'honneur de ma famille. En Pologne, Jean-Paul II, c'est ça qui est surprenant quand vous vivez en Pologne, c'est que moi, par exemple, mes réflexes ça a été tout de suite de dire. Vous vous rendez compte ce qu'il a dit au peuple africain sur. Le fait de ne pas utiliser des préservatifs dans un... Et moi, mon père habite en Afrique. Je trouvais ça scandaleux. Mais là-bas, c'est une icône. C'est la personne qu'on a en tête, c'est pas que la personne religieuse, c'est la personne politique, c'est-à-dire la personne qui est venue en Pologne lorsqu'il y avait le régime communiste et qui a parlé aux Polonais et qui a été un rassembleur. Sur la question de l'antisémitisme, Jean-Paul II, je crois qu'il est venu à Auschwitz-Birkenau, je ne veux pas dire de bêtises, mais il a toujours été rassembleur là-dessus, toujours. Ce n'est pas quelqu'un qui a manqué, je veux dire, d'intervention sur ces questions-là. De là à dire qu'il est intervenu beaucoup, je ne peux pas vraiment vous dire. Je peux pas vraiment vous dire.
On veut parler depuis 12.
Encore une fois. Non, mais c'est pas mon sujet.
Oui, Pauline.
C'est une bonne question.
C'est une très très bonne question, mais c'est pas à moi qu'il faut la poser.
Moi, je voudrais juste rebondir sur l'irritation, enfin entre guillemets, dont vous faites preuve à l'égard des descendants de Polonais, de Juifs polonais, qui n'assistent pas au festival juif de Cracovie. Alors, je vais vous dire mon sentiment. Depuis ma toute petite enfance, j'ai eu des parents polonais, j'ai entendu parler des pogroms, des exactions, des menaces, tirer les cheveux. Enfin, pour moi, les parents ont tellement souffert dans cette Pologne que je n'ai pas envie d'y aller.
Mmh. Non, alors
c'est mon cas aussi.
Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je parle pas d'irritation dans le sens où... Non. Ce que je veux dire, c'est que... En fait, c'est plutôt une forme de déception. C'est-à-dire que quand vous habitez en Pologne, que vous travaillez au consulat, ce que j'ai fait pendant un moment à l'Institut français, vous voyez des délégations, énormément de délégations françaises, qui vont à Auschwitz-Birkenau, voire à Treblinka et ailleurs. Et ça, c'est important. Je l'ai fait aussi. Je les ai même accompagnés à plusieurs reprises. Mais le problème, c'est de s'arrêter là. Moi, quand on m'a demandé d'intervenir en Pologne, c'est des universitaires spécialistes de ces questions-là qui m'ont demandé d'intervenir à plusieurs reprises parce que Elles m'ont dit, c'est vrai, tu connais le sujet de l'antisémitisme, mais tu as vécu en Pologne, tu es neutre d'une certaine manière, tu es français, et toi, tu peux parler des choses. Je vais vous dire, je parle de votre histoire, j'ai eu des gens assez compliqués, c'était les réservistes de l'armée israélienne, les généraux, dans un débat où je devais intervenir. C'est très intéressant parce que j'ai dû animer un débat, enfin le modérer plutôt, avec des gens qui, pour certains d'entre eux, avaient des origines polonaises. Et c'était terrible de, pour certains d'entre eux, devant des Polonais, ils disaient des choses atroces en disant « Mais regardez encore l'antisémitisme qu'il y a, etc. » Ce qui, moi, m'avait interpellé, c'est que il y en a un qui m'a dit « Mais c'est pareil en France, d'une manière à vous, vous êtes français, c'est pareil. » Je dis « Comment ça ?» Il me dit « Vous, le danger en France. » Je dis « Attendez, attendez. » Il fait « Mais vous ?» Et là, il commence à me dire, je me souviens très bien, « Mais vous avez vu ce qui s'est passé avec, avec Mohamed Merah ?» Je lui dis « Attendez, monsieur, vous avez raison. Enfin, ça n'arrive pas tous les jours. Et à ce que je sache, il n'y a pas que des Juifs qui sont morts dans cette histoire. » Il m'a dit « Comment ça ?» Il ne savait pas. Il ne savait pas que des musulmans avaient été tués. Et je lui ai dit, bien sûr qu'il y a de l'antisémitisme en France. Bien sûr qu'il y a un antisémitisme qui, selon les périodes, est plus ou moins virulent. Mais de là à me dire, parce qu'il ne connaissait rien à la France, que c'était dangereux d'habiter en France et qu'il y avait des pogroms régulièrement, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que... Et c'est pour ça aussi que j'interviens et que je suis content de le faire en France. C'est que, malheureusement, en France, l'histoire des Juifs et des Polonais en Pologne, elle est souvent vue sous ce prisme-là, c'est-à-dire l'antisémitisme et les camps de concentration. Et quand moi j'ai participé à ce séminaire organisé par la Maison d'Izieux, c'est ça aussi qui a été intéressant, c'est de montrer autre chose. Les gens que j'ai vus, ils venaient de passer 3 jours dans la ville qui s'appelle Oświęcim. 3 jours à faire des études sur les camps de concentration. Vous savez où est-ce qu'on les a accueillis? Parce que je suis sûr que vous n'avez aucune connaissance de ce qui existe. Dans la ville d'Auschwitz. La ville d'Auschwitz, et ça je voulais vous en parler en 2 minutes, elle s'appelle Oświęcim. Oświęcim. Et les Juifs, à l'époque, l'appelaient Auschwitzin, qui voulait dire, qui était un mot pour dire « Nous sommes les invités ». Moi, j'ai travaillé au centre juif d'Auschwitz. Il est à 2 km des camps de concentration. Quand vous êtes au centre juif d'Auschwitz, on n'est pas là pour vous parler de la Shoah. On en parle un peu. Mais on parle d'autre chose. À l'époque, il y avait justement une exposition sur les justes polonais. Mais il y avait aussi des expositions sur la mémoire juive. Ce centre juif d'Auschwitz, il a permis de garder en état la seule synagogue qui est encore sur pied dans cette ville où il y en avait 10. Toutes ont été détruites sauf une. Alors, c'est plus un lieu de culte, mais c'est un lieu où notamment des délégations, et moi j'en ai accueilli, viennent se recueillir, prier, etc. Et ça, c'est, vous voyez, c'est ça que je trouve important. Malheureusement, c'est là où est mon regret, c'est que la France, c'est pas long. Et pourtant, je trouve qu'on est, les communautés juives françaises s'intéressent peu à ça. C'est pas moi qui le dis. Vous connaissez peut-être le rabbin Corsia. Ben voilà. Et ben, moi, le rabbin Corsia, je lui ai fait la visite du musée. Et c'est lui qui a dit ça. Il m'a dit, je me souviens, on était dans cette synagogue. Moi, j'étais le premier stagiaire français au centre juif d'Auschwitz. Il y avait beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Autrichiens, vous voyez ? Beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Autrichiens. Pourquoi ? Toujours parce que pas beaucoup de Français, j'étais le premier, je crois qu'il y en a eu un après. Et le rabbin, il disait à toute cette délégation, il a amené une délégation énorme, il a dit, mais on vient aussi contribuer, notamment ils avaient financé des brochures faites en français, pour dire, il y en a marre que la préservation de l'héritage juif en Pologne, ça soit uniquement une initiative anglo-saxonne. Parce qu'on n'a pas la même notion du communautarisme, on n'a pas la même notion. Et il a dit, donc nous, en venant au centre juif d'Auschwitz, en finançant des choses, mais aussi en venant dans ce lieu, on veut dire que dans notre bus, il y avait aussi des gens qui sont des juifs polonais et qui viennent là. Et c'est pour ça que je voulais que je disais ça.
Mais excusez-moi, mais qui finance ce centre ?
Le centre juif d'Auschwitz, il est financé par une fondation qui est basée aux États-Unis.
Eh oui.
Je voulais juste faire une petite remarque de vocabulaire. Je suis un peu étonnée que vous utilisiez le terme de camp de concentration. Mm-hmm. Parce qu'en fait, en Pologne, ce n'était pas les camps de concentration, c'était les centres de mise à mort.
Il y avait d'extermination.
Oui, d'une certaine
manière. Auschwitz-Birkenau est un centre, voilà. Un camp de concentration et d'extermination.
Il y en a deux. Mais les camps de concentration les plus connus sont en Allemagne.
Non, il y en a aussi en Pologne.
Et en Autriche. Moi, il me semble qu'il vaudrait mieux parler, quand vous parlez de la Pologne, parler de centre de mise à mort, parce que c'est l'usage qu'on a
aujourd'hui. Non, parce qu'on ne peut pas dire ça, parce que Treblinka était un camp de mise à mort. Auschwitz-Birkenau en était un autre. Mais il y avait des camps qui n'étaient pas des camps d'extermination en Pologne.
Les juifs polonais ont été exterminés à Belzec, à Treblinka, à Sobibor. Ils n'ont pas été exterminés à Auschwitz. Auschwitz, c'était surtout les juifs occidentaux.
Non, mais je suis d'accord.
Je pense que ça serait mieux. On a un historien à Grenoble que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Tal Brutmann, mm-hmm. qui va venir d'ailleurs bientôt chez l'amitié juif chrétien. Il a fait tout un travail récent sur Auschwitz. Et moi, je me disais toujours, Auschwitz, c'est en Pologne. Ben non, Auschwitz, ce n'était pas la Pologne, c'était l'Allemagne. C'est comme si on disait le Struthof, c'est la France.
Bien sûr.
Ben non, Struthof, c'était allemand.
C'est pour ça que moi je parle de territoire et pas territoire polonais.
Moi il me semble que pour la Pologne, il vaut mieux parler des centres de mise à mort. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des camps de concentration.
Parce que
les camps de concentration, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le centre de mise à mort.
Non, mais Auschwitz-Birkenau commence par être un centre de concentration.
Oui,
avant
sûr.
D'être un centre de mise à mort.
Oui.
Et donc, il y a les deux. Et vous avez des camps en Pologne qui ne sont pas des camps d'extermination. Et autre chose, la plupart des Juifs polonais, ils ne sont pas tués dans des camps.
Oui, ils sont tués sur place.
Ils sont tués dans des forêts, etc. Ils ne sont pas du tout tués dans les camps.
Ça, je ne suis pas aussi sûr que vous, parce que je ne connais pas bien le nombre. Effectivement, il y a des tueries
personnellement
à l'Est, ça c'est vrai. Mm-hmm. Par contre, tous les ghettos étaient tués dans les camps, parce que les ghettos, Varsovie est parti en Treblinka, et il y avait des camps comme Belzec, où on tuait beaucoup de juifs, c'était un camp d'extermination. Donc, les noms, je ne connais pas.
Pas dans les
forêts, parce que dans la forêt, c'est par la population.
Oui.
Vous présentez une partie de l'histoire qui est vue, qui est correcte, pas les problèmes qu'ont eu des Polonais pendant la guerre, c'est vrai. Par contre, quand vous partez de parler des Japonais, il y avait dizaines de Japonais en Pologne. Et l'historiographie en polonais, ça en parle aujourd'hui. Donc, et c'est pas aussi simple. Il y a une certaine personne dont vous citez, et vous avez cité ici, qui a même dit. Je ne sais pas comment c'était formulé, mais qui a dit que les Polonais ont tué plus de Juifs que des Allemands.
Alors. Qui a dit ça ?
Ah ben oui.
Qui a dit ça ?
Bon, on lui a essayé de faire le procès pour ça. Si vous lisez Jan Grabowski, c'est le premier qui fait.
Bien sûr.
Donc voilà, l'histoire, je suis d'accord avec vous que c'est très complexe.
Alors, juste une chose.
Ça, on est d'accord. Mais bon,
Juste une chose. C'est connu, c'est documenté. Les Einsatzgruppen, ils existent avant les camps d'extermination.
Mais
c'est eux, quand je parle de l'extermination dans les forêts, c'est ce qu'on appelle. Il y a quelqu'un qui appelle.
La
Shoah par balle. Elle a lieu là. Mais autre chose, on parle des ghettos en pensant que. Les gens ont vécu dans les ghettos, on les a amenés à Auschwitz. Mais attendez, il y en a combien qui sont morts dans les ghettos ? C'est énorme. Les famines, le typhus, etc. C'est pour ça que, et ça c'est documenté, je n'ai pas les chiffres, la plupart des juifs polonais Et c'est ce que dit Chris Schwartz, qui est un Britannique qui a travaillé là-dessus. Ne sont pas morts dans les camps de concentration. Ils sont morts par la Shoah, par balle, par la famine, etc. etc. Mais pas la majorité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu énormément ou trop.
Mais pas à l'Est.
Comment ?
Mais pas dans l'Est, puisque là, il y avait les Einsatzgruppen. Et ça fait quand même beaucoup de monde.
Après je voulais rebondir sur autre chose. Mais quand je parle des forêts, je ne parle pas des meurtres des Polonais. Hein. D'ailleurs, mon propos, il n'est pas particulièrement anti-polonais. Hein.
La Shoah par balle, ce n'était pas forcément les forêts, c'était des exterminations, des liquidations sur place.
Sur place,
dans les villages, dans les ghettos, enfin à côté, en Italie.
Attendez, un peu d'ordre, parce que il y a plusieurs questions en même temps. Fini.
Vous avez fait votre maîtrise à Cracovie, si je veux dire.
À l'université Jagiellon.
Qui était votre
prof ? Yolanta Ambrosevich Jacobs.
Qui ?
Yolanta Ambrosevich. Mais je peux vous citer d'autres profs si vous me le dites.
Une dernière question parce qu'il faudra quitter la salle.
Une petite remarque.
Moi. J'étais les dames d'abord. Tant que les harcèlements n'existent pas.
À propos de la remarque de madame sur Cracovie, que je connais quelque peu, pourriez dire quand même que c'est une ville, par rapport à la Pologne, particulièrement ouverte, intelligente, avec pas mal de militants de droits de l'homme, qui fait contraste d'ailleurs avec les campagnes assez obtuses et assez bigotes. Mais Cracovie est une ville dont je voudrais défendre l'intelligence et l'engagement pour les causes humaines, pour les causes des droits de l'homme, ce qui n'est pas le cas. Dans le reste, j'ai vu une ville un peu voisine, Saint-Domers, garantie
de la
succession. Bon, ben là, elle est confite en bigoterie et il y a une espèce de grand séminaire où on véhicule des idées antisémites, pas possible. Mais ça fait contraste avec Cracovie, qui est quand même une ville où on peut aller discuter avec des gens intelligents, qui en plus parlent des gens
intelligents. Mais vous savez, moi, j'ai un appartement à Cracovie, j'y étais il y a un mois et demi, j'y vais encore dans un mois, ma compagne est polonaise, ma compagne, hier, vous voyez, c'était très drôle, ma compagne a quand même fait des études, elle travaille dans la coopération internationale, elle parle quatre langues, je lui parlais de quelques auteurs, Mouvski par exemple, je ne savais pas qui c'était, je lui parlais d'un certain nombre de personnes, quand on parle de l'antisémitisme en Pologne aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui disent ça comme ils vous diraient n'importe quoi, mais simplement, soit c'est une image qui a été véhiculée par des parents, des grands-parents, mais c'est même pas quelque chose de forcément fondé. Mais, vous savez, on a toujours besoin d'haïr quelqu'un. On haït qui ?
Il y a un bouquin qui est sorti. Et ton prochain comme toi-même.
Je voulais vous demander si vous connaissez sûrement d'ailleurs une dame dont j'ai découvert le livre il n'y a pas longtemps, mais il paraît qu'il est très connu, de Agata Tuschinska. Vous la connaissez ?
Non.
Ça s'appelle Une histoire familiale de la peur. C'est un livre sur votre sujet. Hein ?
Agata
Tuschinska. C'est sur votre sujet, ça, je pense que ça peut vous intéresser, c'est un livre de poche. Hein. Vaudet parlait de la complexité des choses et de l'évolution dans les familles, comment on a caché les choses, etc. C'est vraiment un livre extraordinaire.
Ben je veux bien prendre la réponse. Moi, je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai plus touché à ce sujet depuis 2009. Pour une raison, c'est que, vous savez quoi ? Vous êtes amené à aller 5 ou 6 fois dans les camps de concentration, voire plus. Que vous lisez Yann Thomas Gross, les pogroms, vous vous intéressez à l'Holocauste. Vous savez, ne serait-ce que l'Holocauste, si on parle simplement de la Shoah, quel que soit le terme, je veux dire, c'est déjà d'une complexité. Quand on dit toujours, moi j'ai discuté avec le directeur de Auschwitz-Birkenau, le problème d'une visite à Auschwitz-Birkenau, c'est que vous en sortez avec plus de questions que de réponses.
C'est sûr.
Et ce qui est terrible à Auschwitz-Birkenau, moi j'ai un prof, un universitaire qui m'a dit, j'y suis allé une fois, il a 70 ans, il m'a dit, si tu y vas plusieurs fois, ça m'inquiète d'une certaine manière. Parce que lui, en tant qu'universitaire, il me dit, moi quand j'y vais, Je continue, hein, toujours envie de se poser des questions. On parle des juifs, mais juste à côté du centre juif d'Auschwitz, il y a un centre qui est consacré aux Roms. Pour parler, c'est pas 90% là, hein, c'est 98% de la population qui a été exterminée. Et quand vous allez à Auschwitz-Birkenau, mais vous vous posez toutes ces questions, mais pourquoi on a gardé les cheveux, mais pourquoi il y a ça, pourquoi c'est ça, et vous n'arrêtez jamais. Alors moi, dans mon sujet, ce que j'ai fait au bout d'un moment, après 2009, c'est à un moment, j'arrête, parce que, vous voyez, c'est intéressant, mais là, je me suis replongé là-dedans, tout de suite, j'ai racheté un livre. Et depuis 5-6 jours, je relis les trucs, je fais ça. J'ai regardé, il n'y a pas très longtemps, un film qui est effroyable. Je vous le dis, c'est pourtant j'en ai vu des films, hein, Le Pianiste, Liste de Schindler, tout ça. Si vous avez l'occasion de le voir, mais accrochez-vous avant de le voir. Et là, c'est sur les massacres qui ont lieu en Ukraine. Et encore une fois, ça rend compte de la complexité. C'est des Juifs tués par des Ukrainiens, des Juifs tués par des Allemands, des Ukrainiens qui tuent des Polonais qui tuent des Ukrainiens. Et il s'appelle Vowin. Je ne sais pas si monsieur, vous en avez entendu parler. Il a fait un peu ce qu'on a. Et
il a lu le bouquin de Snyder, non ?
Le ?
De Snyder. Timothée Snyder.
Ouais, je l'ai pas. J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas.
Bon, je pense que. Merci. On a encore beaucoup de questions, probablement, mais il faut qu'on rentre de la salle, et puis bon, il est déjà.
Très bien.
Merci beaucoup.
Et encore une fois, excusez-moi pour les imprécisions, ça c'est très clair.
On ne peut pas tout dire.
Ah, si vous pouvez pas attendre.